Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. En septembre 2022, le sabotage de Nord Stream en mer Baltique réveille les consciences. Cet acte terroriste sur le gazoduc qui relie la Russie à l'Allemagne oblige à mieux penser les menaces et les risques qui pèsent sur les installations critiques énergétiques offshore en Europe. C'est le sujet d'une étude que vient de publier l'Observatoire de la sécurité des flux et des matières énergétiques. Pour en parler, je reçois Samir Hamdani, chercheur à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques, et membre de cet observatoire. Bonjour Samir Hamdani.
Bonjour.
Alors, le déclic pour vous, ça a été vraiment le sabotage de Nord Stream, c'est ça ?
Très clairement, comme vous l'avez dit, c'est Nord Stream qui, les Nord Stream qui font prendre conscience de la vulnérabilité de ces infrastructures. Et ensuite, dans le contexte de la guerre en Ukraine, on a vu une multitude d'événements qui ont confirmé la nécessité de mener une réflexion sur ces sujets.
Ah, il n'y a pas que Nord Stream.
Je pense notamment au survol par des drones des plateformes pétrolières norvégiennes. Nous avons vu aussi le Baltic Connector, qui est un pipeline qui reliait la Finlande et l'Estonie, qui s'est vu en octobre 2023 endommagé par une ancre d'un bateau chinois, ou aussi plus tôt dans l'année ont été rapportés dans la presse l'espionnage de champs éoliens offshore par des navires russes au large de la Baltique et en mer du Nord également.
Ce sujet n'existait pas avant ces événements ?
Bien sûr que si, ce sujet existait. Personnellement, je suivais le dossier Nord Stream de très près depuis longtemps. Et effectivement, on avait déjà des menaces sur ce pipeline. En 2021, par exemple, un sous-marin était apparu sur le chantier du Nord Stream, ce qui était assez menaçant. Nous avions des avions militaires.
Sous-marin russe ? On ne sait pas ?
On ne sait pas. À l'époque, les Polonais faisaient quelques manœuvres autour du chantier.
D'accord.
De façon à le perturber.
Bon, le sabotage de Nord Stream, on ne sait toujours pas. Hein.
On ne sait toujours pas, non. Et pour l'instant, les enquêtes semblent mener vers une piste ukrainienne.
D'accord. Bon, alors vous avez décidé de travailler sur quatre cas concrets. Hein. D'abord, un pipeline qui amène le gaz algérien en Italie via la Tunisie. Bon, ça, c'est un vieux projet qui existe depuis longtemps. C'est quoi les risques et les menaces ?
Alors les risques et les menaces, donc sur la section offshore, on peut imaginer des choses telles que pour le Nord Stream,
ouais.
Mais également sur la section onshore, ce pipeline sort part du Sahara,
ouais.
Et donc on a un risque important de terrorisme.
Ouais.
Mais on veut élargir le scope, notamment sur le risque géopolitique. Le risque n'est pas seulement le sabotage, le risque peut être aussi juste fermer les vannes, les craintes qui étaient sur le Nord Stream. Et c'est ce que l'Algérie a menacé de faire envers l'Espagne lorsque l'Espagne a, par exemple, soutenu le Maroc.
Sahara occidental.
Tout à fait. Et donc, l'Algérie pourrait mettre en place ce genre de chantage à destination de l'Italie, par exemple, également.
Début des années 80, il fonctionne, ce pipeline.
Depuis 83, oui.
D'accord. Ensuite, vous avez pris la plateforme pétrolière norvégienne, là aussi, qui existe depuis un certain nombre d'années, non ?
Qui existe, qui est en place depuis 2019, mais qui est l'avenir donc du secteur pétrolier norvégien. C'est en ça qu'elle est extrêmement critique, et notamment pour l'approvisionnement pétrolier des Européens. Et c'est une des plateformes qui s'est vue survolée par des drones donc en octobre 2022. Des enquêtes ont été menées. On a notamment attrapé des citoyens, au moins un citoyen russe, à la frontière russo-norvégienne, qui essayait de passer avec du coup les commandes du drone.
Mmh. Ensuite, vous avez un futur parc éolien en Baltique. Bon, il n'est pas encore entièrement prêt.
Tout à fait, au large de la Pologne. Et ce qu'on trouvait intéressant dedans, c'était pour faire écho justement à ces espionnages des champs danois et de champs néerlandais qui ont été rapportés. On a vu notamment un navire russe raccompagné par la marine néerlandaise un peu au large. Et donc la Pologne étant en première ligne dans le conflit ukrainien, étant un fort soutien de l'Ukraine, la Pologne pourrait être une cible privilégiée d'action russe.
Et donc ce parc pourrait ne pas exister ?
Ce parc pourrait, enfin pour l'instant, si. il semble en bon cours de développement, mais une fois qu'il existera, il pourrait être mappé, cartographié par des navires russes. et à des fins de sabotage ultérieur. Pour l'instant, le sabotage de l'éolien ne peut apparaître pas comme extrêmement critique dans le sens où l'éolien a encore une part restreinte dans les mix énergétiques. Mais avec la transition énergétique, l'éolien devenant de plus en plus important, il devient de plus en plus critique.
Enfin, quatrième projet que vous avez étudié, là encore, hein, c'est un câble électrique entre la Grèce et Israël via Chypre.
C'est ça, le Great Sea Interconnector. Celui-ci, il est intéressant au-delà de la zone sous extrême tension qui est la Méditerranée orientale, avec des acteurs perturbateurs comme la Turquie, notamment de par ses prétentions territoriales. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est notamment la présence de la Chine, qui n'est pas évidente comme cela. Mais le projet est porté par IPTO, qui est le gestionnaire de réseau de transport d'électricité grec.
Oui.
À l'intérieur de cette entreprise, le gestionnaire de réseau de transport électrique chinois détient 24%.
D'accord.
Et alors là, on a donc l'État chinois qui est présent au capital de ces entreprises. Et en fait, la Chine vise à l'intégration des réseaux électriques à l'échelle transcontinentale, eurasiatique, auquel cas elle deviendrait une grande productrice
d'électricité.
Et donc approvisionnerait l'Europe. Et à ce moment-là, on pourrait voir la création d'une dépendance des Européens à l'énergie, à l'électricité pas chère venant de Chine, comme ce fut le cas de la dépendance des Européens au gaz pas cher des Russes.
Ouais. Sauf que là, il ne viendrait pas de Chine, on est d'accord, il viendrait d'Israël.
L'électricité à terme, dans un réseau intégré à l'échelle transcontinentale, pourrait venir de Chine.
Dans les critères de votre étude, il n'y a pas que les risques terroristes, espionnage, hein. Il y a les risques juridiques. Il y a les risques climatiques, il y a les risques cyber et le risque de défaut d'approvisionnement des matériaux nécessaires pour la maintenance et l'entretien de ces infrastructures.
Tout à fait. Donc, on a vraiment voulu élargir le scope puisque Nord Stream a effectivement éveillé les consciences, mais éveillé les consciences sur un point précis qui est le risque de sabotage, le risque d'attentat. Mais les risques sont multiples et surtout, ces risques sont interconnectés. Et donc, ce qu'on veut dans ce rapport, c'est faire comprendre que le risque sur ces infrastructures ne peut être abordé que de manière globale.
Tout à fait. Alors, réaction par rapport à cette étude de la part des entreprises, de la part du ministère de l'économie, de la part de Bruxelles?
Alors, pour l'instant, des autorités publiques, nous n'avons pas tellement eu de réaction. Lorsqu'on parle avec des acteurs comme les entreprises ou certains membres des autorités, mais qui n'en parlent pas en tant que représentants, ils peuvent intéresser notamment par la méthode. La méthode qui vise à essayer d'évaluer les risques et d'avoir une représentation assez graphique de cette évaluation, ce que nous avons fait dans le rapport.
Parce que cette méthode est nouvelle ?
Cette méthode n'est pas nouvelle, mais pour l'appui à la décision, elle est particulièrement pertinente puisqu'elle offre quelque chose d'assez visuel pour le décideur qui peut, de par des graphiques, tout de suite avoir l'information.
Et évidemment, vous avez pris 4 cas, mais je suppose qu'il y en a des dizaines, non ? Il faudra faire le même travail.
Justement, nous avons pris 4 cas pour ne pas avoir à faire une liste exhaustive des infrastructures européennes qui auraient demandé des années. Justement, nous avons pris ces 4 cas pour pouvoir permettre de réfléchir à l'ensemble des cas si possible. Nous avons pris des cas répartis dans des zones géographiques différentes, de secteurs énergétiques différents. Et également à des stades de développement différents pour montrer les différents risques qui apparaissent lorsque l'infrastructure est vieille et en fonctionnement, ou lorsque l'infrastructure n'est pas encore développée.
Alors bon, on parlait des pouvoirs publics, savoir s'ils étaient dans le coup ou pas. Est-ce que les entreprises, quand même, cartographient leurs risques, j'espère, non ?
Oui, tout à fait. De toute manière, sur la sécurité des infrastructures critiques, les opérateurs sont les premiers concernés par la prise en charge du risque, sont les premiers responsables de la sécurisation de ces infrastructures et des personnels qui y sont. Et donc, justement, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est effectivement parfois faire monter en compétence les opérateurs sur ces questions, mais surtout améliorer la coordination entre les opérateurs et les autorités publiques. Et même entre les opérateurs, entre eux, on peut penser à des solutions comme la mutualisation des moyens de surveillance en mer ou ce genre de choses.
Vous considérez que ce n'est pas assez mutualisé? Vous considérez qu'ils ne parlent pas suffisamment entre eux, les opérateurs et les pouvoirs publics?
C'est ce qui ressort du terrain, en tout cas, c'est ce qui est dit par les acteurs, qu'on a encore un manque de communication.
Que ce soit au niveau national ou que ce soit à Bruxelles?
Que ce soit, oui, vraiment à toutes les échelles, à l'échelle nationale entre opérateurs et autorités publiques, et ensuite à l'échelle européenne, que ce soit entre États membres, à l'échelle otanienne entre alliés. Tout à fait, on a encore un besoin d'approfondissement, et c'est ce qui est prôné et mis en place dorénavant depuis les Nord Stream par une multitude de politiques publiques. Oui.
Question d'argent ou question de volonté?
Aujourd'hui, on va plutôt parler de question de moyens, oui.
Ah ouais?
Oui, plutôt qu'une question de volonté. Je pense que la question de la volonté aujourd'hui est forte de par l'effet Nord Stream. Et on a un agenda politique très serré sur la question. On a une initiative chaque mois d'une forme ou d'une autre. Donc oui, c'est vraiment plutôt une question de moyens. Oui.
Merci beaucoup Samir Hamdani pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur France24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.